Voilà, ben, bonjour et merci d'être venu pour écouter. Donc, je vais parler de la Maurienne, mais voilà, sans vouloir empiéter sur des travaux qui sont en cours, je vais partir des sources. Hein. Vous savez, quand on ne fait pas d'histoire sans sources. Hein. Les sources, ce sont ces documents qui nous parviennent du passé. Ce sont des écrits, hein, mais ça peut être aussi des vestiges archéologiques, des images, et puis de plus en plus aussi ce qu'on appelle des sources, des archives naturelles, des pollens fossiles, des choses comme ça. Enfin, c'est ça qui nous permet de faire de l'histoire. Hein, et puis, ben, une fois qu'on a on a rassemblé des sources, il faut les faire parler, hein, pour essayer de construire ensuite un discours à peu près cohérent. Hein, voilà. Donc sur la Maurienne, je vais te parler des fameux contes de Châtellenie, hein, qui sont conservés par milliers, ces fameux rouleaux qui sont conservés aux archives départementales, hein, et donc dont une partie concerne la Maurienne. Et l'idée, c'était un petit peu de voir, de prendre ces contes de Châtellenie, les premiers, hein, ceux du XIIIe siècle, pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Hein, voilà, qu'est-ce qu'on peut connaître de la Maurienne du XIIIe siècle en parcourant ces fameux rouleaux. Hein, voilà, donc, l'idée. Hein. Alors, de fait, hein, pour ce qui est de la Maurienne, mais aussi d'autres régions de Savoie, il n'y a pas beaucoup de sources écrites avant l'époque des premiers contes de Châtellenie. Hein. Il y a quelques documents, hein, bon, j'ai cité le Pouillet du chapitre cathédrale de Maurienne, hein, où on a des documents de la fin du XIIe siècle, enfin bon, il n'y a pas énormément de choses, il y a quelques documents dispersés. Hein. Mais c'est vraiment avec les contes de Châtellenie qu'on commence à avoir une masse d'écrits, hein, qui permettent de travailler, hein, sur la Maurienne. Hein. Donc très peu de sources avant les contes de Châtellenie, et il n'y a pas tant de sources que ça en dehors des contes de Châtellenie. Hein, voilà, il y en a quelques-unes. Hein. Il y a un censier, c'est-à-dire une liste des droits seigneuriaux du chapitre cathédrale de Maurienne vers 1275. Hein. Alors quand on est en Savoie, il y a les extantes qui sont des enquêtes qui ont été faites par les comtes de Savoie à la fin du XIIIe siècle, mais on n'en a pas gardé pour la Maurienne, alors qu'il y en avait. Hein. Il y en a qui ont été faites, les comtes de Savoie ont fait faire des extantes, des enquêtes, hein, sur ces possessions de Maurienne, mais elles n'ont pas été conservées. Il hein. Y a les comptes de subsides, alors c'est un peu plus tardif, début du XIVe siècle, là c'est quand le comte de Savoie commence à mettre en place une fiscalité, hein, un impôt public, et non plus seulement des droits seigneuriaux, pour que les gens payent l'impôt, il faut les enregistrer, hein, dans des rouleaux de comptes. Et donc les comptes de subsides, ce sont tout simplement des listes des familles qui peuvent payer l'impôt. Hein. Donc c'est intéressant pour connaître le peuplement. Hein. Voilà ce qu'on a un petit peu comme source pour parler de la société. Hein. Je ne parle pas des grandes familles seigneuriales, je parle de la société moyennaise. Hein, voilà. Donc finalement, les premières sources, hein, vraiment nombreux, ce sont les contes de Châtellenie. Hein. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, que ce sont des... C'est ce qu'on a Châtellenie. Hein. Ben, c'est à partir du XIIIe siècle, le comte de Savoie, les comtes de Savoie commencent à transformer leur collection de seigneuries un peu hétéroclites en ce qu'on appelle une principauté, c'est-à-dire quelque chose qui va ressembler à un État, avec une administration. Hein, voilà. Et donc ils divisent leur domaine en circonscriptions administratives qu'on appelle des châtellenies, hein, qui sont dirigées par des fonctionnaires, généralement des nobles, les châtelains. Hein, voilà. Ces châtelains sont là pour finalement faire régner l'ordre, rendre son injustice et puis surtout lever les droits seigneuriaux qui appartiennent au comte de Savoie. Ils ont autour d'eux une équipe et en particulier, ils ont toujours à côté d'eux un notaire. Ça veut dire que leur gestion est une gestion par l'écrit. C'est ces constructions administratives sont gérées au moyen de l'écrit. Donc à chaque fois que le châtelain fait les dépenses ou reçoit les droits pour le comte, prend les décisions, il y a le notaire qui écrit. Sinon, il ne reste rien. Alors, ce châtelain, c'est un fonctionnaire, et quand il est fonctionnaire, il faut qu'il soit contrôlé par le pouvoir central. Et donc, en principe, une fois par an, notre châtelain, il doit aller là où se trouve la Cour de compte de Savoie. À partir de 1295, c'est à Chambéry. Et il doit justifier de sa gestion devant des gens qu'on appelle les auditeurs des comptes, qui sont un petit peu les gens qui siègent à la Cour des comptes. Aujourd'hui. Et donc, ils viennent avec les écrits que leur notaire a fait. Et donc, les auditeurs des comptes vont éplucher cette gestion du châtelain. Ils vont comparer avec un document de référence qui est extant, cette fameuse enquête qui a été faite. C'est cette enquête qui a recensé tous les droits du comte de Savoie, par exemple en Vienne, tout ce qu'il doit recevoir. Donc, on compare, on demande au châtelain, dans telle paroisse, vous avez reçu moins de seigles que d'habitude, c'est à cause de quoi ? Une fois que le châtelain a expliqué finalement sa gestion d'une année, on lui donne quitus de son compte, et puis les auditeurs des comptes font mettre au propre. Finalement, les documents que le châtelain a amenés, ils en font une sorte de résumé de la gestion du châtelain. C'est ça le compte de Châtenay. Donc c'est sur des rouleaux de peau, cousus ensemble. Et ça se présente toujours à peu près de la même façon. Il y a une sorte d'introduction qu'on appelle un incipit avec le nom du châtelain, la période qui est considérée, les auditeurs des comptes. Et puis ensuite, il y a d'abord toutes les recettes. Tous les droits seigneuriaux qui ont été levés dans la châtaignerie, d'abord en nature, en froment, en seigle, en avoine, en cire, en poule, en noix, en ce qu'on veut. Ensuite, les recettes en argent. Et puis ensuite, les dépenses que le châtelain a faites pour des messagers, pour envoyer des choses à la cour comptable, pour faire réparer une tour du château ou de la maison forte, etc. Puis après, on fait le total, les recettes, les dépenses. Si les dépenses ont été plus importantes que les recettes, c'est le châtelain qui a avancé l'argent, il faut le rembourser. Si les recettes ont été plus importantes que les dépenses, il reste de l'argent, et donc ça, c'est à verser au trésor comptable. Comment ça se passe. Alors en fait, ce qu'il y a dans les comptes de Châtenay, c'est surtout, on parle surtout des droits seigneuriaux qu'en tant que seigneur, le comte de Savoie perçoit. Et c'est à travers de ce prisme-là, qu'il faut essayer de deviner un petit peu ce qui se passe dans la société. Moriel. Et c'est donc les comptes de Châtenay sont un reflet finalement de ce qui se passait en Maurienne dans ces années-là, mais un reflet déformé, évidemment. Parce qu'il y a des choses dont ça ne parle pas, par exemple, comme on va le voir. Alors là on parlait donc des premiers comptes de Maurienne avant 1300. Alors le premier compte, il date de 1266-1267, il est dans un état assez compliqué. Donc là, je me suis surtout servi de comptes un peu plus tardifs, pour donner des exemples. On a des premiers comptes dans les années 1260. Hein, je crois que le premier compte que l'on a gardé, c'est un compte de Châtelny de Montmélian qui est de 1263. Voilà, donc on est à peu près dans ces zones-là. Alors la première chose que l'on voit, c'est l'organisation administrative, puisque la Châtelny, c'est une circonscription administrative. Donc, les comtes de Châtelny, ils ne nous parlent pas de toute la Maurienne, ils nous parlent de la Châtelny de Maurienne. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler aussi la Maurienne comtale, mais seulement d'une partie de la Maurienne comtale. Alors, en fait, les premiers comtes nous montrent que le découpage administratif de la Maurienne comtale était un petit peu lent à se mettre en place, puisque les premiers comtes nous parlent d'une Châtelny d'Hermillon et d'Aiguebelle, à l'intérieur duquel il y a une maitradie de Maurienne. Donc on a un châtelain qui siège dans les tours d'Hermillon, là après il ira s'installer à la chambre, et il gère à la fois finalement la basse Maurienne, le comtal, la Maurienne Maurienne, et puis la haute Maurienne. Et puis à partir de 1287, tout ça va un peu se décanter. On va avoir deux châtellenies, la châtellenie d'Aiguebelle, et puis la châtellenie de Maurienne, avec plusieurs subdivisions qu'on appelle des maitradies. Voilà. Alors ce n'est pas toute la Maurienne, puisque le comte de Savoie n'est pas le seigneur direct de toute la Maurienne. Alors il y a bien évidemment les terres de... Je vais mettre une carte là que je peux... Hop. Montrer, hein. Il y a donc les terres c'est en jaune, là, c'est pas très heureux, la terre épiscopale, donc les terres de l'évêque, on est avant 1327, 1327, il y aura une révolte de Larvant, et donc le comte pourra mettre la main sur une partie des terres épiscopales, mais là on est à l'époque où l'évêque a ses terres à lui, bien séparées. Voilà. Il y a la châtellenie d'Aiguebelle. Il y a une seigneurie tout à fait en haut de la Maurienne, là, du côté de Bessan, on est sur les terres de l'abbaye Saint-Michel de la Cluse. Voilà. Et puis même à l'intérieur de la châtellenie comtale, il y a des enclaves seigneuriales. Ça c'est pas le comte de Châtelny, c'est le premier comte de subside qu'on appelle le Vintin de 1318. C'est un rouleau sur lequel il y a les listes des gens qui sont susceptibles de payer cet impôt. C'est intéressant parce qu'on voit que, par exemple, la chambre, vous voyez, camérale, on a la liste des homines domini, c'est-à-dire des gens dont le comte est le seigneur direct, mais aussi des non homines domini, c'est-à-dire des gens qui payent quand même l'impôt au comte, mais ces gens-là ne sont pas les seigneurs, les hommes du comte de Savoie, ce sont les hommes d'autres seigneurs, comme les vicomtes de la chambre, par exemple, on voit pour d'autres paroisses, on voit Mongé-la-Fraie par exemple, voilà. Il y a 40 familles qui dépendent du comte de Savoie, il y a 28 familles qui dépendent d'autres seigneurs. Même chose. Donc on voit que même à l'intérieur de la Maurienne comtale, il y a des gens dont le comte de Savoie est le seigneur direct, et puis il y a des gens dont le seigneur direct est un vassal du comte de Savoie. Alors ces autres seigneurs, voilà, la chambre, les cuines, la balme, et puis il y a les seigneurs ecclésiastiques, il y a le chapitre de Maurienne, Donc il ne s'agit pas d'une circonscription, là, comme nos circonscriptions actuelles, où finalement il y a une continuité dans un département français actuel, et bien, tout l'espace est sous souveraineté de la République française. Là, c'est un peu plus plus compliqué. On est dans un monde, finalement, qui est encore un monde féodal. Hein. Voilà. Alors, notre châtaignerie de Maurienne, elle est aussi divisée hein, en circonscriptions, en sous-châtaigneries qu'on appelle des métralies, hein, sur lesquelles je vais revenir. Mais la particularité de la Maurienne, c'est que plusieurs métralies, mais qui sont regroupées en deux ensembles territoriaux hein, que les comtes décrivent toujours comme ce qu'il y a en dessous de la Verne et ce qu'il y a au-dessus de la Verne. Hein. C'est-à-dire que dans les comptes de Châtaignerie de Maurienne, en fait, pour chaque année comptable, vous avez toujours deux comptes. Hein. Vous avez le compte Averna Inferius hein, et le compte Averna Superius. Hein. Alors, ça correspond. Alors, en gros, la séparation, l'espèce de travers, là, la séparation, elle est entre Saint-Michel et Modane. Hein. Au-dessus de Saint-Michel, c'est Averna Superius, et en deçà de Modane, c'est Averna Inferius. Alors, c'est en fait en dessus ou en dessous de la Verne. Hein. Alors, on s'interrogeait en venant hein, sur ce que c'était que la Verne, parce que c'est quelque chose qui ne correspond plus à grand-chose. Alors, c'était probablement un cours d'eau, parce que Verne, c'est un hydronyme celte, hein, bien connu, qui veut dire torrent, justement, ou rivière. Hein. Voilà. Alors, c'est probablement un terme très ancien, déjà, à cette époque-là, qui désignait un torrent, qui a dû changer de nom après. Hein. C'est l'explication la plus... plus logique. Hein, voilà. Mais donc là, la châtaignerie est bien séparée hein, en deux, finalement. On pourrait en gros dire voilà, la basse maurienne, c'est la châtaignerie d'Aigbel, la moyenne maurienne, c'est le Averna Inferius, et puis la haute maurienne, c'est Averna Superius. Hein, en gros. Et donc, chacune des deux moitiés est divisé en métralies. Hein. Alors, Averna Inferius, alors c'est pas très clair encore au XIIIe siècle. Hein, les métralies cherchent aussi à se fixer. On mentionne les métralies de Saint-Julien et de Saint-Michel, hein, les métralies de La Chambre et d'Hermillon, qui sont souvent liées, et puis la métralie des Villars et de Cuisnes. Hein, voilà. Alors, le châtelain, on en a parlé, c'est un noble, un fonctionnaire qui est payé. Hein. Il a comme subordonné les métros. Hein. Les métros. Hein. Alors, leur rôle, bah, c'est de aussi maintenir l'ordre, faire les enquêtes, et puis de lever les droits du comte dans leur domaine. Hein. Alors, ce sont généralement, alors que le châtelain est un fonctionnaire, les métros sont des fermiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils prennent leur charge à ferme. Ils achètent en quelque sorte leur ferme. Hein. C'est-à-dire qu'ils payent au comte de Savoie une somme tous les ans, en échange de quoi hein, ils sont payés en particulier par une partie des amendes qui sont levées. Hein. Voilà. Alors généralement, ces fermiers, ce sont soit... Enfin, ces métros, ce sont généralement soit les petits nobles locaux, soit aussi des notables, hein, non nobles, en particulier des notaires ou des artisans. Hein. On a le cas, par exemple, hein, vous avez le deuxième, là, donc là ça dit, de 40 sous reçus par Étienne Fabre pour la ferme de la métrallie du Bourget, hein, pour une année entière, hein, donc payée au carême l'année 93, hein, 1293. Hein. Donc voilà, le fermier de la métralie du Bourget en 1293, c'est un certain Étienne Fabre, qu'on voit d'ailleurs par ailleurs, qui est, comme son nom l'indique, il est forgeron. Hein. Voilà. Alors par contre, le métral de Saint-Julien, lui, et de Saint-Michel, Pierre... d'Arbiaco, c'est-à-dire de Tarbis, c'est un petit noble. Hein, voilà, donc c'est ces métros hein, qui sont les subordonnés des châtelains. Voilà. Donc pour ce qui est du cadre administratif qui est lisible à travers les comptes de Châtaignier. Alors est-ce que ça nous parle aussi des villages et des habitants hein. Alors j'ai mis ces illustrations-là hein, parce qu'on a conservé très peu de maisons rurales du XIIIe ou du XIVe siècle, hein, de maisons paysannes par exemple, hein, donc pas dans la région. Hein, c'est pour ça que j'ai mis d'autres. Alors en fait, il y a des choses dans les comptes de Châtaignier, pas énormément. Hein, faut pas se faire trop d'illusions. Hein, ça ne parle pas des maisons, par exemple. Hein, pas du tout. Hein, ça a aucune chance de trouver une description d'une maison. En tout cas, pas dans les comptes de Châtaignier du XIIIe siècle et du XIVe siècle. Ceux du XVe siècle, si on a de la chance, on peut tomber, mais c'est rare. Alors, par contre, évidemment, ça nous parle des lieux d'habitat, hein, puisque souvent les redevances seigneuriales sont, on nous explique qu'elles sont levées hein, dans telle ou telle paroisse, sur tel ou tel village. Hein, voilà. Alors, les habitats, effectivement, hein, les termes sur lesquels ils apparaissent dans les comptes de Châtaignier, c'est la villa, hein, qui désigne une petite ville ou une bourgade. Hein, vous avez par exemple le 6 livres reçus des recettes des foires de la ville de Saint-Michel. Hein, vous avez la paroisse, mais le terme est... La paroisse, hein, en gros, c'est vraiment le cadre de la vie rurale au Moyen-Âge, hein, c'est l'ancêtre finalement de la commune. Hein, et puis on trouve d'autres termes comme comme presque toujours en Savoie, à l'intérieur de la paroisse, il y a des villages, hein, voilà, qui sont dits villarium ou villagium. Hein, alors ce sont pas des termes latins ni l'un ni l'autre, hein, ce sont des termes locaux, vernaculaires. Patois qui ont été latinisés. Hein. Le villagium, c'est un terme plutôt récent au XIIIe siècle. Hein. Et puis le villarium, c'est le vieux terme de villar qui désigne un hameau. Hein. On trouve aussi les termes de locum, le lieu, hein, pour désigner un village, et puis souvent aussi les redevances, vous avez le terme apoud. Hein, apoud, c'est A avec un accent, hein, donc telle redevance est levée apoud. Relam, par exemple, ou apoud caméram, hein, donc à la chambre. Hein, voilà comment on repère les villages. Mais les comptes de Châtaignier ne sont pas une source extrêmement intéressante hein, pour l'équipe de l'habitat, pour tous les gars. Voilà dans ces premiers comptes de Châtaignier un petit peu les lieux que l'on peut lister. Hein, voilà, les comptes de subsides par exemple sont de bien meilleures sources hein, pour l'équipe de l'habitat. Mais là on trouve hein, donc un centre de lieux. Hein, alors en gros, il faut pas s'étonner, on est à la fin du XIIIe siècle, les villages, c'est aujourd'hui. Hein, voilà, en général, en France, hein, le tissu de l'habitat, en 1200, il est en place. Hein, voilà, hein. Après 1200, il y a des hameaux qui ont pu disparaître, il n'y en a pas tellement qui se sont constitués. Hein. Pour ça, comme pour d'autres choses, on vit encore dans l'héritage médiéval. Hein. Voilà. Hein. Alors, bien sûr, on a les noms latins, mais ça, c'est comme pour les noms des personnes. Hein. En fait, les noms latins ne sont pas les vrais noms. Hein, les vrais noms, c'est les noms patois, hein, mais c'est simplement les notaires. Hein, quand ils mettaient par écrit ce qu'on leur disait, ils avaient la sale manie de tout latiniser. Hein, c'est comme les noms des gens qu'on trouve dans les contes de Châtelaigny. Hein, on a vu Stéphanus Fabry, hein, il ne s'appelait pas Stéphanus Fabry, il s'appelait Étienne Fabre. Hein, mais le notaire, lui, il transcrivait en latin. Alors, soit il mettait le strict équivalent latin, il met Stéphanus pour Étienne. Enfin, quand il ne voit pas d'équivalent latin, il prend le terme patois et puis il latinise maintenant. Hein. Voilà, donc on peut quand même dans les contes de Châtelaigny trouver donc les noms des paroisses, des villages, des petites villes. Hein, voilà, qui ne sont pas d'ailleurs donc Saint-Michel qualifié de ville, Saint-Julien aussi par exemple. Hein, donc une ville au Moyen-Âge, c'est pas la même chose que ce qu'est une ville aujourd'hui. Hein, c'est quelques centaines d'habitants avec une enceinte, mais parfois pas forcément, mais quelques centaines d'habitants bien groupés avec un marché des foires et une charte de liberté, ça fait une ville. Hein. Voilà, donc les critères ne sont pas forcément les mêmes. Alors il y a l'habitant en tant que tel, et puis il y a les communautés d'habitants, hein, c'est-à-dire finalement les communautés villageoises ou les communautés paroissiales. Hein, alors là aussi, les contes de Châtelaigny ne sont pas du tout une bonne source pour étudier les communautés d'habitants. Là, le seul poste dans lequel souvent on les repère, c'est, on y reviendra, le poste des banats, le poste de la justice. Hein. Quand une communauté d'habitants en bloc s'est rendue coupable d'une infraction. Je ne sais pas si on verra après. Ou parfois quand il y a des redevances qui sont payées en bloc par les gens d'un village, par une communauté. Hein. On a par exemple dans le poste des deniers de Sens, hein, on a 3 sous qui sont reçus des hommes du Bourget, hein, et 4 sous qui sont reçus des hommes de Termignon. Alors, quand on dit « les hommes d'eux », hein, c'est une vieille phrase qui désigne une communauté. À cette époque-là. Parce que les termes plus spécifiques qui désignent la communauté, c'est-à-dire les termes d'université et les termes de communauté, hein, les universitates et les communitates, hein, sont des termes qui vont se répandre plus tard. Surtout au XIVe et au XVe siècle, quand ces communautés vont recevoir des documents, hein, seigneuriaux qui, en quelque sorte, vont officialiser leur existence. Hein, ce sont les chartes de franchise, hein, ou les chartes d'albergement, hein, qui donnent à ces communautés, qui pour l'instant sont assez informelles, hein, qui vont leur donner une existence juridique. Hein, et à ce moment-là, donc, on va les désigner dans les textes comme université ou communauté. Mais là, pas encore, donc c'est simplement les hommes d'eux. Hein, voilà. Hein, Alors, toujours pour ce problème de l'habitat et des habitants, les contes de Châtelaigny voilà, sont une source précieuse, hein, on n'en a pas tellement d'autres, mais ils ont des manques, il y a des zones blanches, il y a des choses dont ils ne parlent pas. Hein, et en particulier, c'est le cas des mâts. Hein, alors, le mât qu'on trouve en Savoie, mais aussi en Dauphiné, à la fin du Moyen-Âge, c'est un avatar du manse qu'on trouvait à l'époque carolingienne. Hein. Alors, c'est compliqué à expliquer ce que c'est qu'un mât. Hein. C'est un territoire, c'est un quartier de culture où vous trouvez des parcelles, des champs, des bois, des prés, parfois des maisons, de l'espace inculte, aussi des friches, de la forêt, etc. Hein, dans lequel il y a plusieurs familles qui sont possessionnées. Mais ce qui fait le mât, c'est que ces familles qui sont possessionnées dans le mât, elles forment une sorte d'association qu'on appelle un consortage, hein, et ils payent les droits sur le mât ensemble au compte de Savoie. C'est-à-dire qu'ils forment une sorte de syndicat, hein, de gens qui sont possessionnés dans ce petit territoire, hein, et le comte de Savoie a des rapports avec eux en bloc, c'est-à-dire qu'ils payent tous ensemble les redevances, ensuite ils les répartissent entre eux, hein, voilà. Hein. Alors le quand on regarde les sources plus tardives, hein, sur la Maurienne, par exemple les Terriers, hein, ou les comtes de Châtenay du XVe siècle, on voit qu'il y a des mâts partout. Hein, voilà, que en particulier les paroisses de montagne, hein, dans la vallée des Villars, par exemple, etc., les terroirs sont vraiment organisés en mâts. Hein, c'est pas seulement en Maurienne, d'ailleurs, hein, en Tarentaise, c'est la même chose, hein, dans le massif de Bauche, c'est la même chose, etc. On a même des mâts dans le Pouillet du chapitre cathédral à la fin du XIIe, donc ça veut dire qu'on a bien des mâts à la fin du XIIe siècle en Maurienne. 1275, donc à la même époque que les nos premiers comtes de Châtelaigny, le censier du chapitre cathédral de Maurienne eh bien, nous parle aussi des mâts, par exemple, hein, à Montrichier. Ceux qui tiennent le mât des Oursins doivent 12 deniers. Hein, à Villard, 22 sous pour le mât des travers. Hein, voilà, il y a bien des mâts, mais dans les comtes de Châtelaigny, on ne les voit pas du tout. Hein, on voit pas. Alors, ça n'existe pas, ça ne veut pas dire non plus que les châtelains aient une dent contre les mâts, mais c'est-à-dire que les redevances sont signalées en bloc. Voilà, bah, on a reçu tant pour telle paroisse, on a reçu tant pour telle paroisse, on ne s'intéresse pas aux détails. Hein, voilà, c'est. Pour ça. Mais disons que si on s'intéresse à l'organisation des terroirs de Maurienne uniquement à travers les comtes de Châtelaigny, on passe à côté d'une réalité qui est quand même très importante. Hein? Ah, c'est le problème des sources. Il y a les informations que les sources donnent, puis il y a les informations qu'elles ne donnent pas. Alors si on dispose d'une seule source, par exemple, bah, c'est un peu embêtant. Hein? Parce que on passe à côté de choses qui peuvent être importantes. Voilà. Là, par exemple, hein, j'ai pris une source postérieure, c'est un comte de Châtelaigny particulier de 1429-1430, donc on est. Plus d'un siècle plus tard, mais le conte particulier de Maurienne de 1429-1430 est extrêmement détaillé. Hein, voilà. Et celui-là, eh ben, il nous montre des mâts un peu partout, parce que à l'intérieur des redevances, là, ce sont les recettes en sève, là où un conte de Châtelaigny normal va nous dire ben, reçu dans la paroisse du Bourget tant celle, ce compte de particulier, va nous détailler les gens qui donnent du sel dans la paroisse du Bourget. Et on voit que c'est organisé en bas. C'est-à-dire que vous avez les gens, donc vous avez Marguerite, femme d'Anserme, Oudéard, Jacques et Antoine Buès, Pierre et Jacques Oudéard, Étienne Bertrand, et Pluribus Alice, hein, et d'autres, hein, cités dans l'extante. Pour le mât du rocher, hein, eh bien, tous ensemble, ils payent 4 sautiers de sel. Hein. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils exploitent le mât des rochers ensemble, ce n'est pas un colcause. Hein. Voilà, hein, ils ont chacun des champs dans ce petit territoire, hein, mais ils payent ensemble, ils sont responsables ensemble. Hein. Voilà. Hein, voilà. Alors ça, voilà, donc, on le. On le voit pas du tout dans les premiers comptes de châtaignier, alors que si on fait le décompte du compte particulier, on voit que par exemple, on décompte 76 mâts, hein, donc 46 à Vernas Inferius et 32 à Vernas Superius. Hein, donc ça fait beaucoup. Hein. Voilà, donc ça c'est un exemple d'une information qui n'y a pas dans la source, hein, dans les comptes de châtaignier. Alors si on continue avec les productions agricoles, hein, alors dans les comptes de châtaignier, on nous parle des productions agricoles puisque il y a des recettes en nature. Hein, alors il y a des recettes en céréales. Ça commence toujours, d'ailleurs le compte de châtaignier, ça commence toujours par les recettes en céréales. Hein. Alors on voit par exemple pour 1293-1294, à Vernas Inferius, le comte reçoit 7 sotiers de froment, hein, 47 sotiers de seigle à la mesure de la chambre, plus 35 sotiers à la mesure de Saint-Michel. Ça fait 82 sotiers, je ne sais pas bien ensemble parce que les mesures sont différentes. Hein, chaque métrallier a ses propres mesures. Alors, est-ce que c'est parce que je tiens le truc que ça fait du bruit? Oui, mais le problème, c'est que
la poche.
Oui, mais j'ai pas de poche, justement. Ah, oui. Voilà. Voilà. Donc, le froment, le seigle, l'orge, hein, l'avoine, hein. À Vernas Superius, on a du froment et du sel. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que le froment, parce que c'est un autre blé à nous, il n'y en a pas beaucoup. Hein, et que ce qui domine là, c'est le seigle et l'avoine. Hein, des céréales qui sont peut-être plus adaptées à des terroirs de montagne. Hein, voilà. Hein. Voilà, donc on se dit, bah, chouette, donc c'est qu'en Maurienne, on cultivait surtout finalement du seigle, un petit peu d'orge, et puis aussi beaucoup d'avoine. Hein. Bon, alors l'avoine, a priori, c'est pour les chevaux, mais on sait que les humains aussi mangeaient l'avoine sous forme de bouillie. Hein, voilà, c'est le porridge, quoi, en fait. Hein, voilà. Alors là aussi, mais méfions-nous de ce type de source, parce que les contes de Châtaignier nous disent ce que le comte reçoit comme type de céréales. Il ne dit pas forcément ce que les paysans cultivent. Il y a une différence entre les deux. Alors on le voit par exemple si on prend la recette des dîmes pour le chapitre 4. Vous savez, la dîme, c'est cette redevance religieuse, en gros 10%, hein, des revenus. Hein. Et donc les paysans, en principe, payent un dixième de leur récolte. Hein, c'est pas forcément un dixième. Bon, voilà, tous les ans. Hein. Alors les recettes de dîmes sont plus proches des productions réelles que les autres redevances seigneuriales. Hein. Alors en 1275, le chapitre cathédral de Maurienne, il reçoit pour le compte des dîmes 3 sotiers de froment, 108 sotiers d'orge, 29 sotiers d'avoine, 12 sotiers de sel. Là, c'est l'orge qui domine. C'est pas le sel. Hein. Voilà, alors. Ah, il y a la contradiction. Qu'est-ce qu'on cultive le plus en Maurienne? C'est le seigle et l'avoine ou c'est l'orge, hein, voilà. Bah, disons que les dîmes, c'est plus fiable. Hein, donc ça serait plutôt l'orge. Hein, voilà. Mais le comte de Savoie, lui, il reçoit davantage de seigle et d'avoine. Alors l'avoine, bah, c'est pour les chevaux. Hein, donc les seigneurs ont tendance à demander pas mal d'avoine. Hein. C'est pour ça que souvent, dans les recettes seigneurial, l'avoine est surestimée par rapport à sa culture réelle. Hein, voilà. Hein, alors voilà, donc encore une fois, c'est pour montrer que il y a des renseignements, hein, dans ces sources écrites, mais c'est bien de pouvoir recouper, hein, avoir d'autres sources, parce que si on se fie à une seule source, hein, bah, on peut facilement être induit en erreur, hein, ou bon, voilà, donc là c'était les céréales. Alors pour les autres production agricole, de quoi nous parle l'école Châtelaine. Il y a des recettes en vin. Hein, bon, ça ne m'étonne pas. Il y avait des lignes en Maurienne. Alors, là où on signale des recettes en vin, c'est Cuisnes, Saint-Julien. On sait que autour de Saint-Julien, il y avait beaucoup de vignes. Hein. Hermillon, Saint-Michel, Saint-Rémy, Saint-Jean, Montrichier, Saint-Martin-d'Arc. Où le comte de Châtelaigny signale de la vie. Hein. On trouve aussi d'autres. Pareillement, il a rendu compte de 9 sautiers de vin reçus à Cuisnes, hein, des recettes annuelles. Hein, voilà. On compte de Savoie reçoit des noix. Hein, pareillement, il a rendu compte de 3 émines de noix reçues à Saint-Rémy. Hein, voilà. 20 tours ou de soupra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, de toutes ces recettes en nature, c'est la céréale, noix, vin, etc., il y a une petite partie qui pouvait être consommée par le châtelain et son équipe, mais la plus grosse partie était revendue. Hein, et les vendites ou de soupra, ça veut dire que plus loin dans le camp de Châtelaigny, il y a un poste des ventes avec les recettes des ventes de ces denrées. Alors il y a aussi les pois et les fèves aussi, hein, que l'on trouve, hein, de façon bien moins importante que les céréales. Ça ne veut pas dire que les pois et les fèves n'étaient pas importants dans la consommation, hein, mais ça veut dire que ça faisait l'objet d'un prélèvement seigneurial moins important que les céréales. Alors, les contes Châtelaigny, c'est des contes de seigneurie. Hein. Voilà, donc on est en plein dans le régime seigneurial. Hein. Voilà. Donc, les contes Châtelaigny permettent aussi d'aborder le régime de la terre, hein, dans ce monde seigneurial. Hein. Parce qu'on a des droits seigneuriaux qui sont mentionnés dans les contes Châtelaigny qui nous expliquent justement, hein, comment ça fonctionne. Hein. Alors, par exemple, vous avez le denier de sens. Hein, vous avez un poste de denier de sens. Alors, le sens, qu'on appelle aussi le servi en Savoie, hein, c'est une redevance que les paysans payent pour leur tenue, pour leur terre. Hein. Alors, le régime de la terre, en Savoie, comme dans beaucoup d'autres régions, c'est le régime de la tenure perpétuelle ou de l'amphithéose. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas du tout comme on le dit souvent que les seigneurs possèdent la terre et ils la louent aux paysans. Hein. C'est un système complexe de partage de la propriété. Hein. C'est-à-dire que, en fait, une parcelle de terre, elle a deux propriétaires. Hein. Il y a le paysan qui a la propriété utile. Hein. C'est-à-dire qu'il est à peu près maître de sa terre, il la cultive comme il veut, il la transmet à ses héritiers, il peut la vendre. Hein. Voilà, donc il a les mêmes droits qu'un propriétaire. Mais il doit cohabiter avec un autre propriétaire qui est le seigneur, qui est le propriétaire éminent ou direct. Hein. Et la propriété du seigneur, elle se manifeste par le paiement par le paysan, qu'on appelle aussi le tenancier, d'un certain nombre de redevances. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas un régime de location, ce régime de l'amphithéose. Hein. Donc le paysan, il est maître de sa terre, mais il doit payer tous les ans des redevances annuelles, comme le cens, que ce soit en argent ou en nature. Hein. Il doit payer aussi d'autres redevances, par exemple le placitum, hein, le plaid, ben, quand le paysan meurt, hein, son héritier doit payer une sorte de droit de mutation au seigneur. Hein. Et quand le seigneur meurt, eh bien, ses hommes doivent payer aussi un droit de mutation, le même, hein, à son héritier. De même, quand un paysan entre en possession d'une nouvelle terre, parce qu'il a acheté par exemple un champ à un autre paysan, hein, ben il doit payer au seigneur un droit d'entrée, qu'on appelle l'introge. Hein, Hein. Et puis, le paysan, comme je l'ai dit, est propriétaire, donc comme tout propriétaire, il peut vendre sa terre à un autre paysan. Hein. Mais dans ce cas-là, l'acheteur doit payer une partie du prix de vente. Alors, ça varie, mais ça tourne autour du 12e ou 13e, hein, au seigneur. Hein. C'est ce qu'on appelle les lotes et ventes. Alors, vous avez ces postes-là dans le compte de Châtellenie. Alors, par exemple, le poste de l'Hôtes et Ventes est intéressant parce qu'on voit tout au long du XIIIe et du XIVe siècle, il y a de plus en plus de transactions foncières. Hein, c'est-à-dire que d'achat-vente de cartes aux paysans, d'échanges, etc. C'est-à-dire qu'on a un marché foncier de plus en plus dynamique. Hein, on voit, par exemple, là, dans le premier compte, pour Vernon Ferrius, vous avez seulement deux mentions de transactions, 34 en 1279, 43 en 1293-1294, 76 en 1289-1300. Voilà. Alors j'ai mis des exemples de lourdes et ventes. Hein. Par exemple, il a rendu compte de sous six deniers hein, de Guillaume Ferral du Villard pour les lourdes et ventes d'une maison achetée à Guigonne du Chenal, hein, prix 15 sous fort. Hein. Ça veut dire que le prix de la maison, c'est 15 sous, hein, et le montant de la taxe, c'est 2 sous 6 deniers. Hein, voilà. Donc, de 2 sous reçus à Bernard Ducrot pour la terre achetée à Jean Tua, prix 15 sous. La terre, c'est un champ, hein, une terre labourable, hein, son prix 15 sous et la taxe 2 sous. Hein, voilà, hein, donc là, alors parfois c'est moins détaillé, là en dessous on a taxe payée pour rebus amtos, des choses achetées. On ne sait pas ce qu'il y a. Hein. Là plus bas vous avez 14 sous reçus de Jacques Martin pour une maison et un curtil, hein, un jardin hein, acheté. Hein, de Jacquette plutôt, la femme de feu Pierre de Lavare. Hein, prix 13 livres, 10 sous. Hein, pas mal. Hein, voilà. Hein, voilà, donc on a ces autres éléments qui sont intéressants parce que ça vous permet d'étudier le marché foncier, ça vous permet aussi sur longue durée, si vous étudiez des dizaines de comptes, de voir l'évolution des prix aussi, hein, les prix de l'immobilier et le prix du foncier. Hein, voilà. Et puis, ça vous montre aussi comment fonctionne finalement ce système seigneurial hein, du XIIIe siècle avec donc des paysans qui sont des tenanciers, c'est-à-dire qui tiennent la terre, hein, mais ils n'en sont pas les locataires. Hein. Ils en sont des quasi-propriétaires, hein, en fait. Alors, on a des choses aussi sur l'élevage. Bien sûr, on est en montagne. Alors, pas d'images moyennaises, hein, des images tirées là des Alpes du Trentin. Hein, bon, et là, c'est une source anglaise, hein, le plotier Blutrel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le compte de Châtellenie qui nous parle de l'élevage? Ben, on a des mentions de prix, des mentions de prêts, hein, que ce soit par exemple dans les lots et ventes ou dans d'autres. Par exemple, là j'ai mis c'est tiré des badins, donc du poste des justices, hein, c'est les amendes. Hein. Donc de 15 sous reçus de Pierre Roche, hein, de Solière, parce qu'il a pris dans les monts du foin qui appartenait à quelqu'un d'autre sans permission. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a les alpages, hein, parce que vous avez un poste de recette, c'est l'alpajum, c'est-à-dire c'est l'eau siège. Hein, l'eau siège, c'est cette redevance qui est payée soit en fromage, soit ensuite en argent. Hein, c'est-à-dire que pour emmener des bêtes laitières à l'alpage, on devait payer au seigneur de l'alpage hein, l'équivalent de un ou plusieurs jours de traite hein, des bêtes en fromage. Hein. Mais c'est souvent transformé en argent. Hein. Alors là, Là, par exemple, on a un compte, on a deux lots sièges sur les montagnes au-dessus de Carmignon. Il n'a rien eu parce que les moutons ne sont pas venus à cause de la guerre. Hein, voilà, donc il n'y a pas de moutons qui sont montés au-dessus de Carmignon. Voilà, à cause de la guerre. Alors, probablement, ce sont des moutons étrangers hein, qui venaient d'ailleurs. Hein, voilà. On a aussi des mentions relatives à l'élevage dans les comptes de péage. Hein, voilà, donc il y a aussi dans les recettes, il y a aussi les recettes des péages. Hein, et on voit que y avait des bêtes qui passaient. Hein, par exemple, de dessous de Fidentia. Hein, Fidentia, c'est une taxe sur le bétail transhumant. Hein. De dessous de Fidentia ovium, hein, la Fidentia des moutons, donc des moutons qui passent par Lens-le-Bourg et Lens-le-Villard, hein, et levés pour chaque trentenier de moutons, donc c'est que les moutons sont comptés par 30, hein, voilà, c'est généralement comme ça, hein, et levés pour chaque trentenier de moutons, 12 deniers forts. Là aussi, pour 41 sous, reçu des recettes du péage des moutons, des brebis, des moutons et des agneaux qui passent par là, qui sont passés pour cette époque par Pont-à-Maffrais, hein, ou élevés sur chaque troupeau. Ah, c'est la matée, hein, une bête, hein, de ceux qui passent. Hein, donc pour chaque troupeau, on prélève une bête. Hein, voilà, ou encore là, de 9 sous de recette du péage qui est levé à la chambre pour cette année et levé pour un cheval, un denier, pour un troupeau, deux deniers, pour les grosses bêtes, c'est-à-dire les bovins. Hein, de deniers pour les ânes de bas, 5 hein, deniers. Hein, voilà, donc on a des mentions hein, comme ça dans ces comptes hein, qui permettent de suivre un petit peu l'activité de l'élevage. Hein, l'artisanat, hein, alors il y a chose aussi parce que on voit que toutes les activités qui sont taxées apparaissent dans les comptes de Châtaigny. Hein, celles qui ne sont pas taxées, elles n'apparaissent pas. Alors, il y a des artisans. Alors, on n'en mentionne pas tant que ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Hein, mais qu'est-ce qu'on a dans nos comptes de Châtaigny, là, qu'est-ce que j'ai relevé? Des fabres, c'est-à-dire des forgerons, hein, des cordonniers, hein, des escoffiers, hein, et puis des taverniers, hein, parce qu'ils sont taxés. Par exemple, là, on a de 5 sous reçus de Jean Audon de Planvillard pour lui, parce qu'il a été dans une taverne et qu'il a pris du pain qui n'y appartenait pas. Hein, donc, on déduit qu'il y a des tavernes où on vend du pain. Hein. Il y a des fours, évidemment. Hein, voilà. On voit aussi il y a des taxes sur la donc bah, sur les voilà les cordonniers et les fards. Hein. Alors les équipements artisanaux, hein, il est question de moulins, il est question de fours, hein, parce que ces moulins et ces fours sont des moulins et des fours banaux, seigneuriaux. Hein, voilà, hein. Alors le comte possède un certain nombre de fours et de moulins qui sont confiés hein, à des personnes qui les font fonctionner, hein, des meuniers et des fourniers, et les gens pour les utiliser bah, payent une taxe hein, qui est mentionnée dans le compte de Châtaigny. On voit donc les 6 sous 6 deniers reçus des recettes du four de fourneau. Des 19 sous 6 deniers reçus de la ferme des fours du Seigneur à la chambre. Hein, voilà. Ou encore, il a rendu compte de 1 sautier de froment à la mesure du bourget reçu pour la ferme de la, de, du tiers, ou plutôt pour, reçu du, pour, le, pour les recettes de, du tiers de la ferme des deux moulins de fourneaux. Alors, dans ces équipements artisanaux, ce qui manque, c'est la métallurgie. Alors, la Maurienne, le Moyen-Âge, a une certaine réputation en matière de métallurgie. Il y a les mines des Urtières, il y a, bon... voilà. Dans les contes de Châtelaigny, on ne voit pas tout ça. Ou plutôt pas au XIIIe siècle. En particulier, il n'y a pas de mention de Martinet et de Fourneau. Les Martinets, ce sont ces moulins hydrauliques qui actionnent des marteaux de forge. C'est un Martinet. Et les Fourneaux, ce sont des fours pour ramollir le minerai. C'est seulement en 1315 qu'on voit apparaître dans les contes de Châtelaigny un nouveau poste, c'est le poste du fer. Donc il y a de la production de fer nouvelle à Vernin-Ferrius et le comte met une taxe dessus. En 1316, on voit apparaître un poste Martinetus. À Tigny, il y a un Martinet, donc une forge hydraulique, qui est taxée, évidemment. 1351, on voit apparaître aussi un Martinet à Fourneau, et en 1382, un Martinet au Fresnay. Donc l'activité métallurgique se développe. Alors, on a aussi des infrastructures commerciales, foire, marché, péage. Il y a très peu d'images sur les marchés, sur les foires de Moyen-Âge. C'est pour ça c'est souvent celle-là qu'on ressort. Les marchés, là aussi. Les marchés sont taxés, les foires sont taxées, les transactions qui ont lieu sur les marchés sont taxées, les transactions qui ont lieu sur les foires sont marchées, donc le marché c'est hebdomadaire, les foires il y en a une ou deux par an. Et puis les péages aussi, comme on l'a vu, rapportent de l'argent, c'est pour ça qu'on les voit dans les comptes de Châtelaigny. Donc on voit les marchés, à Vernin-Ferrius, on a des marchés à La Chambre et à Saint-Michel. À Vernin-Superius, au Bourget et à Tamignon. Les foires, on en a à Saint-Michel et à Tamignon. Et des péages, on en a à La Chambre, à Hermillon, à Pont-à-Maffray. Alors à chaque fois, les péages, ce sont des ponts. C'est pratique pour lever un péage. On se met au bout du pont. C'est pour ça, vous avez le péage de La Chambre, le péage du pont d'Hermillon, le péage de Pont-à-Maffray et le péage du pont d'Aurel. Et puis aussi, on a. Ça c'est dans la Châtelaigny comtale, mais en dehors de la Châtelaigny comtale, on a évidemment un marché des foires à Saint-Jean, et puis vous avez aussi marché foires et péages à Aigbel. J'ai mis l'extrait, on voit en 2-3 sous reçus de. Alors on a aussi dans les marchés, il y a aussi des boucheries, des abattoirs. Donc de 3 sous reçus de 4 échines. Qui ont été obtenus des 4 bouchers de La Chambre, où on lève pour chaque boucher une échine. de sous trois deniers reçus de 13 langues de bœufs tués sur le, donc, dans la boucherie, hein, sur l'abattoir, cette année. Hein. Donc, rendu compte de 55 sous reçus de la moitié de la ferme de la Leyde du marché de la Chambre. Hein, la, donc, la Leyde, c'est la taxe sur les transactions du marché. Hein, là aussi, donc, 20 sous reçus des recettes du péage qui est levé, hein, au pont d'Hermillon, hein, aux foires, c'est-à-dire au moment des foires de Saint-Jean-Baptiste qui sont à Saint-Jean-de-Maurienne. Hein, voilà, c'est-à-dire le péage au pont d'Hermillon, il est levé, hein, au moment de des foires de la Saint-Jean à Saint-Morgan, mais la Saint-Jean, c'est là où passent beaucoup de troupeaux, hein, qui vont en alpage, bon, c'est logique. Hein. On a même parfois des indications sur la quantité de bétail qui passe. Hein. Péage de la Chambre, 1298-1300, on sait qu'il est passé 1020 grosses bêtes en 11 semaines. Hein. Donc les grosses bêtes, c'est les bovins. 7828 petites bêtes. Hein. Donc les ovins et les caprins en un an. Et puis, les rapports humains, voilà, dans les contes de Châtenis, on parle aussi de choses un peu plus loin, charnelles, hein, les rapports humains, mais vus sous l'angle des conflits, de la délinquance, puisqu'il y a un poste dans les contes de Châtenis qui s'appelle les banas, hein, qui sont un poste, ce sont les recettes, ce sont les amendes, hein, qui sont levées. Alors, voilà, il faut expliquer comment se passe la justice dans la châtellenie. Hein. En fait, le châtelain exerce une certaine forme de justice qui est la justice de composition. C'est-à-dire que quand il y a des délits, hein, ou des crimes, hein, le châtelain enquête, ou les trois enquêtent, et de deux choses. Soit c'est très grave, et à ce moment-là, le agresseur est en prison et on attend la visite du juge. Hein. Il y a un juge pour la Maurienne et la Tarentaise, hein, qui vient plusieurs fois dans l'année pour juger. Soit les délits sont jugés moins graves et on pense que ça peut se régler localement. Et donc, on met le délinquant et les victimes en face, le châtelain dit au délinquant, en gros voilà, hein, soit vous reconnaissez les faits, vous indemnisez la victime et vous payez une amende au compte et on en reste là, hein, soit vous refusez, hein, et on attend le juge. Hein, voilà. Et donc, le gros finalement des postes des banas, ce sont ces amendes de composition. Alors, qui sont levés, là j'ai mis des exemples. Hein, alors, ça peut aller de choses bénignes à des crimes. Hein, par exemple, de 8 livres reçus de Richet de Tigny pour lui parce qu'il a tué Jean, Jeannet, hein, fils de feu. De feu le seigneur Jean de Villard, chevalier. Hein, donc il a tué un fils de chevalier. Hein. Alors on va dire, on va le pendre, hein, c'est bon là. Non, il paye lui évidemment. Hein. Pourquoi ? Bah, on ne sait pas. Hein, pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des circonstances atténuantes, peut-être que c'était dans une bagarre où il l'a pas fait exprès. C'était. C'est un accident. Hein, voilà. Hein. De 30 sous reçus de Montémon. Pour lui, parce qu'il a frappé, hein, d'un seau plein Béatrice, la femme de Jean Fabre. Ah, hein, alors lui, il a frappé une femme avec un seau. Hein, voilà, donc il pète en dessous. Hein. Reçu de Marguerite Salin pour elle, parce qu'elle a dit des insultes à Jean Mascon. 30 sous reçus de Thomas d'Amarcon, pour lui, parce qu'il a été dit qu'il a mangé un mouton qui ne lui appartenait pas. Ou Tressou reçu Démon Balai, pour lui, parce qu'il a obstrué un chemin qui n'était pas le sien. Alors, on ne sait pas avec quoi, on ne sait pas voir, mais c'est jugé grave, hein, généralement, d'obstruer les chemins communs. Hein, c'est quelque chose qui est reçu d'Alison, d'Albi, pour Banu Adultéry. Elle a couché avec quelqu'un qui n'était pas son mari, hein, donc elle paie 20 sous. Voilà, donc on trouve de tout. Hein, même des choses collectives, là ce sont des amendes individuelles, mais il y a aussi des amendes collectives. Vous avez par exemple 40 sous reçus de Jean de la Pierre et de Guillaume de la Pierre et de plusieurs autres de Lanvillard parce qu'ils n'ont pas été à la chevauchée du Seigneur. La chevauchée, une partie des paysans était tenue à un service militaire, ils devaient accompagner comme piétaille, hein, l'armée comptable. Mais c'était quelque chose qui était détesté. Les paysans n'avaient rien à faire d'aller dans les guerres du Congo, ça les intéressait absolument. Donc il y avait une très forte résistance à ça, et on trouve dans toutes les châtellenies beaucoup de ces amendes de gens qui ne sont pas présentés, qui n'ont pas du tout voulu abandonner leur champ et tout ça pour aller faire le piéton là, dans les guerres du Comte. Hein. 20 livres reçus des hommes de Bessan, hein, parce que certains d'entre eux ont insulté le forgeron de Lance de Villard, qui est aussi le maître du Seigneur, et ils l'ont même blessé avec une lance. Hein. Parfois, la résistance à l'autorité va plus loin. Là, c'est le maître de le subordonné du châtelain qui est monté à Besson, on ne sait pas pourquoi, et il s'est heurté à l'hostilité des gens de Besson qui l'ont insulté, qui l'ont même blessé. Hein? Ou encore 15 livres d'Étienne Galicie Gallois, hein? De Besson, hein? Parce que son fils a blessé le métral et son compagnon, hein, avec une lance, hein, et il a été condamné à 50 livres fortes, hein, par le juge, hein, mais le seigneur a réduit la peine, comme a dit le châtelain. Hein, ça veut dire que parmi ceux qui ont agressé le métral, il y a le fils d'Étienne Gallois. Lui, on l'a identifié, hein, sur la caméra de surveillance, peut-être. Hein, mais lui, on l'a identifié. Alors lui, il a eu droit à une condamnation du juge. Hein, parce que c'est grave. Mais famille a peut-être émis une plainte, une doléance, à demander la merci, hein, et le comte, par l'intermédiaire de son châtelain, a accepté de réduire la paix. Hein, voilà, donc il paiera 15 livres, ce qui est pas mal quand même, hein, voilà, et il en sera quitte. Hein, voilà, hein, mais il voilà, y a des. Pour chaque comte, il y a des dizaines de bandes de ce type, hein, donc si on les travaille pendant des années et des années, on a une vision un petit peu. Alors on peut s'amuser, je m'étais amusé à partir des données du 21 pour la métravie de la chambre, hein, à calculer une statistique qui vaut ce qu'elle vaut, hein, là je me suis amusé, mais il faudrait faire ça de façon plus sérieuse, hein. Et on obtient une moyenne d'un meurtre pour 2 ou 3 000 habitants. Hein, voilà, à comparer à la norme d'aujourd'hui, aujourd'hui les homicides en France, c'est 1,3 pour 100 000 habitants. Hein, Donc a priori, hein, et bon, il faudra travailler ça plus sérieusement, hein, mais a priori, on est quand même dans une société nettement plus violente que la nôtre, hein, où on sort le couteau assez facilement, hein, notamment quand l'honneur est en jeu. Hein, voilà, hein, voilà. Quand on fait un peu d'histoire, on se rend compte que non, contrairement à ce qu'on nous raconte, nous ne vivons pas dans une société violente. On vit probablement dans peut-être la société la moins violente qui ait jamais existé. Hein, voilà, en tout cas, bien moins violente que celle du Moyen Âge. Hein, voilà. Et donc j'arrive à ma conclusion. Donc, on voit que si on utilise les contes châtaigniers, on obtient une sorte de tableau impressionniste, un petit peu de la Maurienne, mais ça vaut aussi pour les autres châtaigniers. Hein. Alors ça, c'était pour le XIIIe siècle. Si on va pour les XIVe, XVe siècle, eh bien, on enrichit le tableau, en quelque sorte, parce qu'on a des contes qui sont plus précis que ceux du XIIIe. Hein. En particulier, j'ai parlé du conte particulier de 1429-1430. On a d'autres sources, on a ces fameux contes de subsides, ces listes de noms de contribuables qui sont levés par paroisse, parfois par village, hein, qui nous permettent de suivre l'évolution de la population. Il y a le fameux Danois de Maurienne, là, Michael Gelting, qui a fait une thèse, hein, sur l'évolution de la population mauriennaise à l'époque de la peste. Hein, voilà, à partir finalement de des contes de châtaigniers et surtout des contes de subsides. Hein. On a aussi d'autres sources qui apparaissent comme les reconnaissances, c'est les terriers. Hein, donc ce sont des documents que les seigneurs font faire, le comte de Savoie comme les autres seigneurs, hein, dans lequel les paysans vont déclarer tous les biens qu'ils tiennent du seigneur. Hein, donc c'est un notaire qui fait ça, il va aller dans le village et puis il va demander aux paysans de se rassembler. Et chacun va faire sa déclaration. Moi, un tel de la paroisse de temps, je tiens du seigneur comte ma maison dans tel village qui se trouve du côté ouest, elle jouxte la maison de X, du côté ouest, elle jouxte la maison de Y, par derrière, elle tient au jardin de A, devant, elle tient au chemin commun, hein, et je paye pour cette maison 2 deniers, 2 cents, etc. Puis je tiens aussi du seigneur un champ qui se trouve dans la même paroisse, au lieu dit un tel, jouxtant du côté de l'ouest au champ de X, du côté de l'est auprès de Y, du côté du nord du ruisseau d'un, du côté du sud au chemin qui va de l'intérieur. Puis je tiens aussi du compte un pré qui se trouve à... Voilà, et il énumère tous les biens qu'il tient du compte, et puis après on passe à un autre. C'est ça que ces reconnaissances ou ces terriers sont souvent des documents qui font plusieurs centaines. À cette époque-là, ce ne sont plus des rouleaux, ce sont des codex, des gros cahiers qui peuvent contenir plusieurs centaines de pages. Hein, voilà. Donc là, on a une vision par exemple, du paysage, hein, de la mise en valeur d'une paroisse, comme Aurel, par exemple, où on a un beau terrier de 1475. Hein. On commence à voir aussi, 14e, 15e, des chartes de franchise ou d'albergement, document par lequel le seigneur accorde des libertés, charte de franchise, à une communauté, hein, ou par lequel le seigneur reconnaît aussi à une communauté la propriété des alpages, des forêts et des eaux. Ça, une charte d'albergement. Hein, on en a pour le 14e, 15e siècle. Et puis on commence à avoir aussi, à partir du 14e siècle, des procès. Hein, et en particulier, ces procès très nombreux qui opposent les communautés entre elles à propos des eaux, des alpages et des forêts. Hein, alors qu'ils sont très intéressants pour justement la connaissance de ces espaces, mais aussi du fonctionnement des communautés, hein, qui, au XIIIe siècle, nous est pratiquement... pratiquement inconnu. Hein. Voilà, ça, bon, voilà, quand on va vers la fin du Moyen Âge, on a toujours les contes de châtaigniers, Hein. Mais on peut les compléter par d'autres sources hein, qui sont souvent plus précises sur les points où les comptes de Chatini sont un peu faibles. Hein. Voilà, donc l'idée c'était de montrer comme ça assez rapidement ce qu'on pouvait faire avec ces fameux rouleaux. Hein. Voilà, je vous remercie.